Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 12 juillet 2024. Au sommaire, cette semaine, on va parler du guide de resto Tatay qui vient de lancer une application mobile. On va parler d'une application pour faciliter l'immigration au Canada. Et puis, on va parler également du site québec.ca qui va bientôt franchir le cap du milliard de pages consultées. Sinon, mes collègues sont là également. Il y a Catherine Dupont-Gagnon qui va nous parler de bonnes habitudes numériques en vacances. Thierry Weber nous parle de l'IA en Suisse. Stéphane Ricoul nous parle du vieillissement des données. Et Jean-François Poulin parle du UX total avec son invité. Et puis, avant tout ça, on ira retrouver Jérôme Colombin à Paris pour parler du lancement de Samsung qui s'est déroulé il y a quelques jours à Paris. Et puis, voilà, c'est le sommaire de mon carnet pour cette semaine. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de mon carnet. Salutations toute particulière cette semaine à Nadia Paquette, Martin Jolicoeur, Yves Davignon, Dominique Boucher et Franck Goury. À vous cinq, merci pour votre écoute. Merci d'avoir laissé des traces de votre écoute. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange de la semaine. Jérôme Colombin, Monsieur Paris, bonjour.
Monsieur Montréal, Bruno Guglielminetti, salut. Comment
ça
vas-tu?
Ça va bien, toi?
Ouais, ravi de t'accueillir dans mon podcast et merci à toi de me faire un peu de place dans le tien pour aborder quelques petits sujets d'actu cette semaine.
Entre nous, je pense que si t'étais pas là, je me ferais arracher la tête. Avec les commentaires que j'ai, oh non, les gens aiment vraiment ce moment-là. Sinon, beaucoup d'actualités cette semaine, hein. C'est fou, hein. Juillet où on se dit toujours, ça va être tranquille. Ben non, en technologie, c'est bouillant.
Finalement, il se passe des choses, oui. Et cette semaine, c'était à Paris.
Hein? Ben oui, et c'est pas les Jeux Olympiques.
Encore les Jeux Olympiques. C'était les Jeux Olympiques de Samsung, qui est partenaire d'ailleurs des JO. C'est pour ça qu'ils faisaient ça à Paris.
Hasard? Non.
Non, c'est tout était calculé. Alors moi, j'en ai parlé dans Monde Numérique cette semaine. Voilà un petit récapitulatif des annonces. Mais il y a un sujet qui me paraissait particulièrement intéressant. Bon, les smartphones, tout ça, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Mais en revanche, ça y est, ils ont lancé leur bague connectée.
Et finalement.
Ça, hein. Ouais. Est-ce que ça mérite pas qu'on s'y intéresse un peu?
En tout cas, au moins qu'il l'ait présenté, c'est déjà ça, mais je te ferai remarquer qu'il y a 2 ans, Amazon avait présenté sa bague connectée. On l'attend toujours.
Il ne l'avait pas lancé commercialement.
Non, il ne l'avait pas lancé, mais il l'avait présenté.
Ouais. Ce petit joujou, les bagues connectées, c'est super difficile de faire une bague connectée, faire rentrer plein de composants dans un si petit volume. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis du temps. C'est peut-être pour ça qu'Amazon ne sort pas la sienne. Il y en a une sur le marché dont on parle, enfin voilà, qui est un peu la seule, qui est Oura, qui a son public, hein, je crois. Moi, je connais pas mal de gens qui utilisent la bague Oura. Ah ouais. Et puis, en revanche, il y avait une start-up française qui voulait lancer ça et qui s'est cassé la figure, qui n'a pas réussi, en fait.
Mais qu'est-ce qui t'intéresse de la nouvelle bague de Samsung?
Ben, je me demande si c'est un objet connecté à porter sur soi qui va s'imposer comme la montre. Alors la montre connectée, elle a mis beaucoup de temps à s'imposer. Elle ne concerne pas tout le monde. Tout le monde n'a pas de montre connectée, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et tous ceux qui, comme moi, comme toi aussi, je crois. Alors je sais pas quel usage tu en fais, mais moi j'avoue que cette pratique qui consiste à surveiller un certain nombre de paramètres de santé principalement, hein, donc la fréquence cardiaque, le sommeil, hein, c'est ce que fera la bague de Samsung, ce sont des choses, moi je m'y suis habitué et ça fait vraiment partie de ma vie. Je ne suis pas obsédé par ça, mais je ne pourrais pas m'en passer. Par exemple, j'ai un analyseur de sommeil sous mon matelas, je ne le regarde pas tous les jours, mais de temps en temps, ça donne des renseignements très intéressants. Pareil pour les balances connectées. Donc voilà, est-ce que la bague, c'est la prochaine étape, sachant qu'on n'arrive pas encore à faire de lunettes connectées, enfin, qui soient vraiment avec des capteurs intéressants. Et je pense qu'il y a vraiment un truc génial, potentiellement, à avoir comme ça des capteurs de santé sur soi pour de plus en plus détecter les problèmes éventuels qu'on peut avoir et pas seulement être dans le fait de soigner quand on a des maladies, mais alors il y a le côté maladie, mais il peut y avoir aussi tout simplement le côté bien-être, et c'est ça qui est pas mal.
Ouais. Mis à part Amazon, ça serait intéressant de voir si d'autres grands joueurs vont suivre, parce que tu le disais, il y a déjà des joueurs qui sont présents, mais on s'entend, c'est pas Microsoft, c'est pas Apple et même Google. Alors, ça serait intéressant de voir si ces gens-là vont bouger de ce côté-là. Mais bon, tant mieux pour ceux qui arborent du Samsung. Là, ils auront la bague à ajouter. Mais tu vois, de cette présentation-là, mis à part les téléphones, puis t'en parlais, puis moi aussi, j'ai évoqué la chose là cette semaine, mais le grand absent, ça demeure encore Bali.
Oui, Bali, le petit joujou, le petit robot, la petite boule robot de Samsung. Hein, ça fait, ils nous l'ont présenté plusieurs fois au CES de Las Vegas.
2020, la première fois, ouais.
Voilà, ouais. Et c'est vrai qu'ils ne l'ont jamais lancé.
Non. Et c'est affreux parce que en janvier dernier, le président de Samsung s'était montré le visage sur la scène et il y avait Bali qui le suivait. Bali avait reçu une ovation formidable, mais depuis, pas de nouvelles et c'est un peu comme... c'est presque devenu un running gag.
Mais bon, quel serait l'intérêt d'un appareil comme ça? Alors oui, il y a une petite caméra à l'intérieur, ça peut faire une petite caméra de surveillance, ça peut jouer avec le chien, enfin voir si le chien ou le chat va bien quand on n'est pas chez soi, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins utile qu'une montre connectée ou une bague connectée. Et juste un mot encore sur la bague, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la question aussi, c'est de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui peut remplacer une montre ou bien ça viendra la compléter? Est-ce que les gens qui ont déjà une montre connectée auront intérêt à avoir une bague? Potentiellement, peut-être, parce que la promesse, c'est que les données soient plus précises, mais en même temps, ça fait beaucoup moins de choses qu'une montre, puisqu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'interactivité, il n'y a pas de vibreur, il n'y a pas de caméra, etc., etc. Mais l'autonomie est nettement supérieure, parce que pour la bague Samsung, entre 6 et 12 jours, selon les modèles. Voilà.
Ouais. Mais quand même, tu parles des données et de la justesse des données. Tu as sûrement déjà vécu le scénario où tu regardes le podomètre et puis finalement, tu te rends compte que le téléphone et la montre donnent pas les mêmes chiffres. Alors, rajoute à ça la petite donnée que tu vas avoir sur ta montre.
Ouais, mais je crois que c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que d'abord, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que souvent c'est assez convergent. Et puis en fait, à la limite, on s'en fout un peu de la précision. C'est comme une balance connectée. Ce qui est important, c'est pas que le poids soit exact au gramme près. C'est que tu utilises toujours la même balance et que tu vois les tendances au fil des jours, des semaines, des mois, des années. C'est ça qui est intéressant. Et on se rend bien compte. C'est, alors, est-ce que tu as marché 10 000 pas, 10 500 ou 9 500? Oui, effectivement, je pense que la précision va s'améliorer, mais c'est la démarche et la tendance et les tendances qui doivent être intéressantes, il me semble.
J'apprécie ton jovialisme numérique. Dis donc, il n'y avait pas que ça cette semaine. Il y a un article, puis je vais revenir là-dessus avec toi, un article qui a attiré ton attention, c'est Émilie Turrentini, la journaliste tech suisse, qui elle est vraiment prodigieuse. Toutes les semaines, il y a un texte qui sort. Souvent, je les relais parce que je le trouve excellent.
Prodigieuse, ça veut dire qu'elle écrit beaucoup, c'est ça que tu veux dire?
Oui.
Prodigieuse, vous. Ouais, moi, je dirais prodigue, mais bon, chacun son français.
L'important, c'est qu'elle écrit beaucoup. Bon, oui, on s'entend là-dessus. Et surtout...
Prodigieuse aussi par ailleurs, Émilie. Hein,
je ne connais pas tant que ça. Mais elle est prolifique. Tiens, on s'entend
prolifique
là-dessus.
Prolifique aussi. Oui, on est d'accord. Pour prolifique, j'achète. Ouais.
Donc, cette semaine, elle écrivait un texte qui s'intéresse au Shadow AI, donc l'utilisation cachée de l'intelligence artificielle, particulièrement dans le milieu du travail. Et ça commence à être un enjeu important, là.
Alors, j'aime bien parce que ça y est, il y a un terme maintenant qui existe, le shadow AI. Ça veut dire des gens qui, au bureau, utilisent l'intelligence artificielle, mais en loose day, quoi, pour prendre un terme bien français, c'est-à-dire sans le dire à leur patron et en dehors des outils fournis par l'entreprise.
Donc, l'IA en cachette.
L'IA en cachette, exactement. Et c'est vrai que cette étude, elle est intéressante. Il paraît que 74% des employés utiliseraient ChatGPT au travail, 94% utilisent Google Gemini, 96% utiliserait Bard et tout ça sans le dire à leur patron.
Ouais, là, ça, c'est la seule donnée qui m'a déplu de l'étude parce que, pour la petite histoire, Gemini est venu remplacer Bard. Alors, ça se peut pas que à la fois des gens utilisent Gemini et d'autres utilisent Bard.
Donc ce chiffre est pas très intéressant. Mais enfin, entre 70 et 90%, en gros...
Ça fait beaucoup de monde.
Voilà, il faut retenir qu'apparemment, entre 70 et 90% des gens utiliseraient l'IA au travail, des services d'IA au travail, sans le dire à leur patron. Alors, ça montre plusieurs choses quand même, parce que ça veut dire qu'il y a des entreprises qui n'ont pas du tout encore intégré ces outils-là, alors que apparemment il y a un besoin de la part des salariés puisqu'ils l'utilisent. Mais le souci, c'est que on sait que utiliser des LLM grand public comme ChatGPT avec des informations professionnelles, ça peut être très embêtant pour les entreprises.
Et encore plus si on l'utilise sur un compte qui est gratuit. Alors, t'imagines un peu le désastre. D'ailleurs, c'est pour ça que Samsung, écoute, je pense que ça fait un an et demi, a interdit maintenant à ses employés d'utiliser ChatGPT parce que justement, c'était pas un système sécurisé.
Et, voilà, parce qu'il y a des. Le truc, c'est que les données s'en vont et en fait, OpenAI peut les récupérer, quoi. C'est
ça. Les récupère pour apprendre.
Mais tu sais, ça rappelle un peu le problème qu'on avait eu à l'époque, on parlait du BYOD, c'est-à-dire le bring.
Oui, ta propre appareil.
Voilà, bring your own device au bureau. Donc, les gens qui travaillaient au bureau avec leur smartphone ou leur ordinateur personnel, et c'est pareil. C'est parce qu'il y avait un besoin qui n'était pas rempli par l'entreprise, mais ça posait des problèmes de sécurité. Les responsables de cybersécurité s'arrachaient les cheveux avec ces trucs-là.
On revient un peu à l'introduction de l'informatique, puis après l'Internet, puis après les réseaux sociaux dans le contexte des entreprises. C'est-à-dire qu'il va falloir encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bon nombre d'entreprises ne l'ont pas encore fait. Et ça va être un nouveau chapitre à rajouter à la charte des employés. Là.
Et à ce sujet, si je peux me permettre, je renverrai à une interview que j'ai faite il n'y a pas longtemps et qui est disponible en podcast sur Monde Numérique. C'est l'université de Saclay, enfin l'école d'ingénieurs Centrale Supélec, plus exactement, qui a développé un système qui s'appelle Aristote, qui permet justement, quand on traite des données un peu sensibles, même des données de recherche, etc., eh bien, d'utiliser Aristote pour, par exemple, faire des résumés, des comptes rendus de réunion, parce que ça garantit que tout le traitement se passe sur des serveurs en France, qu'il n'y a pas de données qui sont avec des modèles open source et aucune donnée ne fuite sur des LLM publics. En fait, je pense qu'il va falloir qu'on s'auto-éduque et savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire avec ChatGPT et d'autres qu'il ne faut pas faire avec ChatGPT.
En tout cas, il y a une prise de conscience à faire et le papier permettait de faire ça. Jérôme, si je te demandais de quoi tu parles cette semaine?
Eh bien, je te répondrais, mon cher Bruno, que j'emmène mes auditeurs dans les étoiles cette semaine. Ouais. Comme tu le sais, Cocorico, on a lancé une fusée, nous.
C'est vrai, ouais.
Eh oui, alors pas que les Français, mais les Européens. Ariane 6 a décollé, c'est finalement un super événement. Et donc, j'ai plein de choses intéressantes à raconter autour de ça. Il y a une expérience menée par une entreprise française pour tester le LiFi. Le Wi-Fi par la lumière.
Ouais.
Pour remplacer les câbles à bord des fusées. Donc, le responsable de la société OLEDcom m'explique tout ça. Je reçois également un responsable du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui me parle du New Space et de ce que cette nouvelle conquête spatiale va permettre en matière d'environnement, notamment pour surveiller tous les mouvements, la montée des taux de carbone, etc., etc. Et puis, puisqu'on est dans les étoiles, on y reste. Eh bien, je reçois la société Unistellar, qui est une start-up de Marseille, qui a développé un télescope connecté et qui est en train de mettre au point des jumelles connectées à réalité augmentée pour regarder les étoiles et pour regarder la nature.
Waouh!
C'est pas beau, ça?
C'est très beau. J'imagine que la meilleure situation, c'est de se déposer sur le gazon avec un casque sur la tête et d'écouter ton podcast en regardant le ciel.
C'est exactement ça.
Est-ce qu'on écoute pendant le jour ou on écoute à la nuit lorsqu'on voit les étoiles?
Tu peux m'écouter la nuit tombée si ça peut te mettre en joie.
Entre-temps, moi, je te salue. Je veux que tu te prépares mentalement à l'ouverture des jeux parce que c'est bientôt. La semaine prochaine,
je m'entraîne tous les jours.
Ah ouais, bon, c'est bon. Ouais, maintenant, il faut que tu fasses la sélection française, mais sur autre chose.
Mais moi, je fais pas le sport, je chante. À l'entrée du... Voilà.
Ils
ne le savent pas encore. Je fais un duo avec Aya Nakamura.
Faites attention, c'est peut-être Céline Dion qui va arriver. Ouais. Bon, je te laisse.
Salut Bruno, passe une bonne fin d'émission et je te dis à la semaine prochaine.
Et je salue tes auditeurs et je t'en souhaite une bonne fin de podcast. Salut.
Ciao.
Bye. Est-ce que vous connaissez le guide des restaurants Tatef? C'est un grand répertoire québécois de bonnes adresses qui a fait sa place au fil des années dans les outils des Montréalais d'abord, mais ensuite de nombreux Québécois à travers le Québec pour trouver une bonne table pour toutes les occasions et surtout à des prix abordables. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que Tatef passe en vitesse supérieure maintenant avec d'une part l'ajout de la ville de Paris à son répertoire, ça tombe bien avec les Jeux olympiques, et puis l'ajout d'une application applications mobiles. Pour en savoir plus sur le guide, l'application et l'ajout de Paris, on rejoint la PDG et la fondatrice de Tata elle-même. Bonjour Élise Tata.
Bonjour.
Là, j'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Je connais votre guide en ligne. Et là, il y a environ un mois, j'ai découvert que vous aviez une application. Qu'est-ce que votre application va rajouter dans l'expérience qu'utilisait déjà votre site web?
Bien, en fait, le site va continuer d'évoluer, d'être amélioré toutes les semaines. On va continuer d'écrire des articles, faire des listes, faire des portraits, etc. Mais notre personnel lecteur est très satisfait de notre site, de notre infolettre, des contenus. Celui qui est dans la découverte, qui veut passer du temps à lire des articles, etc.
Des fois, on a l'impression de lire un magazine quand on va sur votre site. Quand on embarque, là, oui.
Oui, un peu comme ça. Mais c'était le but. Puis en fait, même avec la refonte du site, ça s'en vient. Tu sais, on s'en va vraiment vers là. Les gens nous disent, on aime beaucoup vos photos, fantastiques, on va en mettre plus. Donc, vraiment un contenu comme un magazine gourmand de restauration, de l'hospitalité, la découverte du milieu. Mais le persona qui était pris, admettons, au centre-ville, puis qui avait besoin d'un lunch client comme maintenant, il me disait, oh, genre, j'arrive pas à trouver, ou il nous écrivait sur Instagram, ou comme moi, je recevais beaucoup de textos, fait que ça rentrait dans les trucs. Ou sinon, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient, j'ai une date jeudi soir, je sors où? Je suis comme, j'ai un guide des dates, regarde donc, mais... En fait, il était comme, non, mais je veux comme maintenant, peux-tu juste me dire genre trois places où aller en date tout de suite? Donc, c'est cette recommandation instantanée de guide-outil qui te donne vraiment quelque chose à un moment spécifique quand tu es en manque de temps. Donc, les deux vont continuer de cohabiter, puis je pense que c'est super intéressant justement dans les prochains temps de voir comment ils vont cohabiter, puis comment ils peuvent se complémentariser, faire une belle... Donc, vivre ensemble.
Ouais.
Et donc, c'est l'aventure dans laquelle on se lance. Donc, l'application vient vraiment devenir un compagnon au site et au lecteur qui l'utilise, c'est-à-dire, vous êtes un mardi midi, tout est fermé, parce que maintenant, le mardi midi, tout est fermé. Vous ouvrez l'application, qu'est-ce qui est ouvert en ce moment? Vous avez les dernières ouvertures, on a vraiment la série de filtres et d'analyses de tastes qui a été mise en place, donc avec qui vous y allez, si vous êtes en date avec des clients, etc., pour quelle occasion, à quel moment. Donc, notre but, c'est vraiment de vous guider dans votre aventure comme ça.
Avant de poursuivre là, sur l'application puis sur le site, parce que vous avez fait un clin d'œil à ça, puis je veux absolument revenir parce que vous êtes une des observatrices de la scène. La pandémie, là, ça a changé beaucoup de choses. Hein. Évidemment, pour les restaurateurs, on s'entend, là, mais pour les clients, on n'a plus les mêmes références, on doit se réhabituer. Comment vous vivez ça à couvrir cette réalité-là?
Bien, en fait, nous, on s'adapte aux besoins. C'est-à-dire que nous, sur le site, il n'y a aucun restaurant, café, bar ou peu importe l'adresse qui peut payer pour être recommandé. C'est super important pour nous juste parce que on ne peut pas te guider à aller dans une adresse si elle nous a payé. Dans le sens où si elle nous paye, on est obligé de parler d'elle, mais si elle devient plus bonne, après, on aurait comme une espèce de conflit d'intérêts. Donc, nous, on écoute ce que les consommateurs, ils veulent. Ce qu'on a découvert post-pandémie, c'est que les gens, ils sortent autant. On a plus de lecteurs que jamais sur le site. On a 10 000 lecteurs par jour qui vont pour chercher des adresses. Fait que, tu sais, les gens, ils sortent, ils veulent sortir. Par contre, leur manière de choisir les adresses ont changé. Ils veulent être un peu plus confiants que, justement, ce qu'ils vont avoir, ça va répondre à leurs attentes. Je pense que, justement, c'est un beau défi avec cette application-là de vraiment... essayer de créer un produit qui, là, on l'a lancé il y a un mois, mais on s'est vraiment donné 2 ans. On va remettre notre algorithme de recommandation hyper personnalisé avec l'intelligence artificielle. On va créer tous les outils qu'on pense qui sont nécessaires à ce guide-là. Mais on veut te recommander une adresse donc qui répond à ton besoin parce que toutes les adresses qui rentrent sur le site sont considérées comme des bonnes adresses selon la qualité de la nourriture, rapport qualité-prix, ambiance, décor et service. Mais une fois qu'elles sont bonnes, elles sont bonnes pour qui? À quel moment? Pour quelle occasion? Et c'est ça qui est intéressant. Ce que moi, j'aime, peut-être que vous l'aimerez pas ou peut-être que mon père ou ma mère l'aimeront pas. Mais le but, c'est de dire, tu sais, une fois que la qualité de la nourriture est bonne, qui on envoie à quel endroit pour que cette personne-là soit contente? Fait qu'il y a le choix là-dedans. Puis il y a aussi, évidemment, ben le budget. Le budget des gens a changé. Mais je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est quand on regardait ce qui se fait sur le marché, il y a beaucoup de gens qui s'adressent aux gens qui ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire les guides Michelin, les World 50 Best, Canada's 100 Best. Puis c'est des entreprises extraordinaires. Là, nous, on travaille avec Canada's 100 Best depuis 7 ans. Puis c'est formidable. Ce sont des adresses extraordinaires. Mais c'est des adresses qui sont extrêmement dispendieuses. Moi, quand j'ai parti le site, ça fait 10 ans, j'étais à ma maîtrise, j'avais aucun argent. J'étais sur des bourses d'excellence parce que je travaillais tellement fort. Mais comme, tu sais, je vivais avec un mini budget. Mais pour moi, aller dépenser un 5$, par exemple, au bar Georges pour me payer un café dans un endroit qui est majestueux puis que je me sentais que j'étais en voyage quelque part, c'est une expérience qui est formidable. Puis c'est pas... Oui, évidemment, il y a l'expérience comme très, très chère, mais il y a aussi comme manger le meilleur croissant. Tout le monde est content. Manger une crème glacée qui est dans la meilleure crèmerie, ça amène des moments de bonheur à tout le monde. Fait que moi, je trouve ça super intéressant de réussir à faire des recommandations pour des gens que, tu sais, c'est je représente monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire que j'aime vraiment bien manger, mais j'ai pas un budget pour me payer des étoiles Michelin chaque semaine. Par contre, j'aime sortir chaque semaine. Fait que quelle occasion, puis quelle chose je suis capable de me payer. Et je vais pas me payer la même chose si je vais en date avec mon mari versus je sors mon fils de 3 ans. Fait que c'est toutes ces choses-là.
C'est votre fils de 3 ans qui va être déçu là-dedans.
Non, j'ai réussi à l'amener dans des petites places qui est bien content. Là. Les dumplings puis les soupes faux, ils adorent ça.
Au fil des années, j'avais l'impression que vous aviez trouvé votre personnalité, puis vous en parliez, là, il y a eu une mise à jour, mais vous aviez trouvé votre personnalité sur le web. Et puis, oui, il y a toujours des concurrents, puis vous en avez mentionné quelques-uns, mais vous aviez comme votre place. Quand on décide de sortir son application, il y en a de la compétition là, dans le monde mobile. Comment vous allez trouver votre place? Qu'est-ce qui va vous définir? Qu'est-ce qui va définir l'application?
Quand j'ai commencé justement il y a 10 ans, si j'avais regardé toute la compétition qui existait pour sortir un blog sur la nourriture, en fait, je l'aurais probablement pas fait. Il y en avait. C'était un peu farfelu comme idée. Mais je pense vraiment que quand ton produit est vraiment bon et quand ton produit répond à un besoin réel, les gens finissent par l'adopter. Puis oui, j'ai pas eu des millions de dollars d'investissement, donc ça va prendre un peu plus de temps à conquérir le marché. Mais je pense sincèrement que cet outil qu'on est en train de créer n'existe pas. C'est-à-dire que moi, quand je voyage, je l'ai créé en partie parce que j'étais partie à Lisbonne avec mon mari. Je suis débarquée de l'avion. Moi, je cours tout le temps, donc j'avais pas trop eu le temps. J'avais regardé sur Eater, j'avais cross-reference tous les sites pour essayer de voir c'était quoi, quelle bonne adresse, etc. On s'était fait un planning. Là, finalement, justement, on décide d'aller au musée à telle journée plutôt que telle autre. Mais finalement, le mardi, le resto, il était fermé. J'étais pognée dans un quartier que je connaissais pas. Donc, c'est des choses qui arrivent pour de vrai. Puis qui, moi, je me suis dit, oh, j'aurais aimé ça avoir quelque chose que j'ouvre. Puis je dis, tu sais, j'ai faim maintenant, je veux un lunch. C'est quoi qui est bon autour? Tu me le recommandes. J'y vais. Parce que aussi, quand on a fait les études après, quand j'ai découvert ce problème-là, j'ai dit, ben ça doit exister. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de contenu, mais alors il y a beaucoup de temps de recherche pour trouver, ou il y a des outils technologiques qui sont vraiment poussés, mais où est-ce que le contenu est moins de qualité. Fait qu'il n'y en a pas un qui regroupe les deux, ou s'il y en a, c'est pour le extrêmement haut de gamme. Mais moi, je suis pas ton client extrêmement haut de gamme. Je représente pas le 0,1% de la population. Je suis juste une fille qui travaille vraiment fort puis qui aime ça bien manger. Donc, comment je fais pour répondre à mon besoin? Puis si moi, j'ai ce problème-là, ben peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont aussi. Fait que comment on veut se positionner? On écoute notre clientèle. Là, on a lancé l'application il y a 1 mois. On a 2500 personnes qui l'utilisent toutes les semaines. On a eu 6500 téléchargements. Tout le monde nous a donné du feedback incroyable. Voici les choses à améliorer. Je vais pas payer l'application pour telle raison, mais si tu fais telle chose, ça pourrait être intéressant pour moi. Fait que évidemment, vu qu'on fait tout bootstrap, il faut qu'on priorise puis qu'on mette ça sur un temps, mais tout est là. On écoute ce que tout le monde nous dit. On essaye de comprendre comment, c'est quoi le problème, où est le besoin, puis comment on est capable de créer un outil qui va répondre à ce besoin-là. Puis je pense que, tu sais, le site, moi, j'ai voulu en faire quelque chose. Les gens ont voulu d'autres choses. J'ai essayé de l'amener ailleurs, justement. On avait rentré notre algorithme d'intelligence artificielle en 2019, puis 2021. Tout le monde me dit, ben moi, je veux juste des listes, je veux du beau contenu, je veux lire des articles. Puis là, j'étais comme, OK, donc j'ai mal compris votre besoin, on va retourner, on va essayer de comprendre, tu sais, où est le problème, où est le bobo, puis comment on est capable de l'améliorer. Puis je pense vraiment que à la fin, quand ton produit est excellent, ça marche. Shopify, quand ils ont parti, ça existait, les trucs de commerce, mais Shopify a juste fait le produit le plus parfait qui existe. Puis ben les gens l'ont adopté, ils en ont parlé à leurs amis, etc. Fait que quand ce que t'offres est bon, puis que tu continues toujours de l'améliorer, moi, je crois que ça peut marcher.
Vous abordiez le fait qu'à un moment donné, autour de 2021, vous avez justement essayé d'utiliser les algorithmes pour personnaliser la sélection de la restauration. Puis vous le disiez aussi précédemment, l'utilisation qu'on fait de votre site web puis celui de l'application, c'est deux choses. Donc, est-ce que dans l'application, vous allez beaucoup plus miser sur la personnalisation?
Absolument. Absolument. Là, ça nous coûtait trop cher à le faire tout de suite, donc on va être en étape 2, mais dans les prochaines semaines puis les prochains mois, c'est vraiment le plan. On a créé un algorithme hyper personnalisé avec les critères d'analyse de nos restaurants puis les goûts des consommateurs. Là, on va l'updater pour être sûr qu'il est correct, puis on le remet dans l'application. Donc, le but, ça serait que les gens puissent rentrer puis dire, moi, j'aime justement... je rencontre plein de gens, des fois, qui me disent « j'haïs ça, le vin nature. Moi, tout le monde aime ça, j'haïs ça. » Je suis comme « mais parfait, on va te recommander des places où il n'y a pas de vin nature. » Ou comme « je bois pas, ben on va te recommander des places où tu bois pas. Je suis vegan, ben parfait, on a plein de restos qui sont vegan-friendly. » Donc, c'est tout comprendre. Puis pour moi, c'est extraordinaire parce que, tu sais, je dis toujours, j'ai la plus belle job du monde. On amène vraiment du bonheur à tout le monde. Comme c'est extraordinaire, on a cette chance-là. Fait que, comment on fait pour optimiser ça? Comment on fait pour que, moi, si une recommandation est réussie, c'est que la recommandation qu'on a faite, le lecteur ou l'utilisateur dit « Ah, c'est exactement ce que je voulais. » Puis le restaurateur, au bout du compte, il est content aussi parce qu'il dit « OK, genre, la personne, je répondais à son besoin. » Parce que moi, un restaurant qu'on recommande puis que le lecteur il dit « C'était trop bruyant, je m'entendais pas, j'ai pas aimé ça. » Ben je suis perdante parce que toi, t'as pas été content. Moi, j'ai fait une mauvaise recommandation. Puis le restaurateur, tu penses qu'il est pas bon, mais c'est pas qu'il est pas bon. C'est juste, il y a un restaurant bruyant. Fait qu'on va envoyer du monde qui veulent beaucoup d'ambiance avec plein de monde. Fait que c'est toute cette fine psychologie de recommandation que je trouve qui est extrêmement intéressante. Puis comment on fait justement pour amener une recommandation subjective dans un contexte de technologie qui est vraiment objectif, tu sais, 0101, voilà.
Vous avez mentionné que déjà, vous avez des milliers de gens qui ont téléchargé l'application, que ces gens-là vous donnent de la rétroaction. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils aiment de votre application?
Ils aiment, évidemment, le contenu, c'est-à-dire que on parle évidemment que des meilleurs. Donc, ça, ils nous ont dit, c'est vraiment positif. Ils nous ont dit aussi qu'ils redécouvrent leur ville. J'ai même des chefs qui sont comme « Élie, je l'utilise à tous les jours. J'avais oublié que telle place existait. Le dimanche soir ou lundi soir, j'arrive pas à trouver. Quand je suis dans un quartier que je connais moins, je l'ouvre puis je trouve les places qui sont ouvertes. » Donc, ça, c'est les choses qu'ils aiment. Ils trouvent aussi que on a travaillé vraiment fort sur le UX UI, donc j'étais contente qu'il y ait une réponse positive. Après, dans les points d'amélioration, on s'est fait dire, par exemple, que la formule de subscription est peut-être pas bonne pour tout le monde. Donc, on a pris ça, puis là, dans les prochaines semaines, on travaille à proposer une passe de juste une soirée. Si vous avez une soirée importante, qu'on puisse juste acheter une soirée. Si vous avez un week-end important quelque part, qu'on peut juste acheter un week-end, puis c'est des passes, donc c'est pas des subscriptions, mais j'avais pas vraiment pensé à ça au départ. Mais bon, ils nous l'ont dit, on l'a écouté, on le fait. Passe d'une soirée, passe de deux jours, puis passe de une semaine, ça s'en vient. On va garder le annuel pour ceux qui veulent, puis le monthly pour ceux qui veulent, mais il va vraiment y avoir des sporadiques dans le temps. Et puis, ils nous disent, là, c'est comme infini, là, ce qu'ils veulent. Ils nous disent, on veut les trucs d'attraction, on aimerait ça avoir des événements, on aimerait ça avoir une suggestion. Mais honnêtement, tout ça, ça va s'en venir. C'est juste que une chose à la fois, puis on va essayer de prioriser justement qu'est-ce qu'on est capable de se payer versus ce qui rapporte. Mais chaque dollar gagné par cette application-là est réinvesti pour faire que le produit marche. Là, on n'est pas en train de dire comme, youhou, on a lancé une application, maintenant tout va bien. C'est comme, OK, c'est le début de l'aventure. On écoute ce que tout le monde dit, on essaye d'améliorer, on améliore. Puis, tu sais, moi, je pense que personne n'est parfait, là. Tout le monde qui est entrepreneur peut bien en témoigner. On a toujours place à l'amélioration. Fait que, tu sais, moi, critique constructive, là, amenez-en dans le sens où c'est parfait. On va savoir où est-ce qu'ils sont tous nos défis, puis on va essayer de structurer le roadmap pour arriver à nos fins.
En terminant, puis je ne veux pas vous laisser partir sans en parler puis le souligner, cet été, vous vous lancez à Paris avec l'application.
Oui, on lance, on a 200 bonnes adresses à Paris, donc de la boulangerie encore une fois jusqu'à l'étoilée Michelin. C'était pour tous les gens qui vont aller à Paris pour les Jeux olympiques. Puis Paris, moi, je suis moitié française, donc j'ai vraiment un attachement quand même à la France. On essaie justement, on a travaillé avec François-Régis Gaudry, qui est très connu à Paris. On essaie de regarder comment on fait pour travailler pour que les Français qui viennent à Montréal, on puisse les guider, parce que Montréal est quand même notre ville qui est la plus populée de bons restaurants. ça s'en vient dans les autres villes d'en avoir autant, mais vu que c'était d'ici qu'on partait, c'est là qu'on en a le plus. Donc oui, on a Paris dans l'application mobile également, puis notre but, c'est d'avoir 24 villes en 24 mois. Fait qu'on essaye d'en ouvrir une par mois.
Méchant marathon. Alice Tatin, fondatrice et PDG de Tatin, de Tatin Plus, l'application. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
Merci.
Au revoir. Si vous connaissez des gens autour de vous qui ont vécu l'expérience de l'immigration, vous savez que c'est un long et fastidieux parcours. Plein de paperasse, de bureaucratie, des mois, sinon des années à attendre avant d'avoir des nouvelles. Eh bien, deux Québécois d'adoption ont décidé de donner un coup de main à ces gens qui veulent immigrer au Canada en développant une application qui carbure à l'intelligence artificielle et qui les suit à travers tout le parcours. L'application ADMI veut rien de moins que de transformer le périple de l'immigration au Canada. Pour nous en parler, on va aller retrouver un des cofondateurs de l'application. Bonjour, Laurent Maisonnave.
Bonjour, Bruno.
Hey, Laurent, moi, je trouve ça fascinant de pouvoir te parler aujourd'hui parce que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on se connaît. Tu es vraiment un entrepreneur du numérique né. Et récemment, en lisant ta page sur LinkedIn, j'ai découvert que tu étais dans une nouvelle aventure et j'étais vraiment curieux parce que c'est très niché comme produit, mais à quelque part, c'est très de notre temps. C'est-à-dire que, comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, mais je vais te demander de me le présenter, là, c'est une application qui veut transformer en quelque sorte l'expérience d'immigrer au Canada?
Ben, tout d'abord, merci de me recevoir, Bruno. Ça me fait très plaisir de te revoir depuis longtemps. Et oui, c'est très niché puisque ça concerne à peu près 300 millions de personnes sur la planète qui immigrent. Et pour le Canada, c'est à peu près 8 millions d'habitants qui ont immigré ces 20 dernières années. Donc, ça représente pas mal de monde. Ça représente un processus qui est souvent complexe. Et tout d'abord, à cause de la barrière de langue, parce que 95% des immigrés au Canada, leur langue première, c'est ni le français ni l'anglais. Donc, ils arrivent à parler un peu en français, un peu en anglais, parce qu'il y a une sélection de toute façon, on prend pas n'importe qui. Mais contrairement à ce qu'on croit, il y a pas tant que ça de français. C'est 3% des immigrés au Canada. Et donc la première barrière, c'est la langue. Et la deuxième barrière, c'est la langue juridique. Donc quand on doit passer à travers le processus, puis... Ça, cette barrière-là, on l'a un peu tous, hein, même quand on doit faire nos impôts, renouveler notre licence pour la maison ou autre, c'est pas toujours plaisant, pas toujours facile. Et donc, ce qu'on arrive, nous, c'est à simplifier ce processus en utilisant les dernières technologies d'intelligence artificielle, un sujet qu'on maîtrise assez bien, Anthony Diaz et mon cofondateur et moi-même.
Ben, parlons-en. Anthony Diaz, c'est l'autre cofondateur donc de ADMIS, et c'est lui qui est venu avec l'idée, hein, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette nouvelle aventure-là?
Ah ben, c'est Anthony, tout d'abord. C'est une aventure entrepreneuriale, c'est d'abord une équipe. Je passe plus de temps avec Anthony que je passe avec ma famille certains jours. C'est très important. Anthony, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Tu vois, on a exactement 20 ans de différence avec Anthony, mais il a une maturité entrepreneuriale qui est incroyable. Et quand je l'ai rencontré, on avait des discussions comme avec quelqu'un qui avait été entrepreneur depuis 20 ans. Mais il se trouve qu'il est entrepreneur depuis une douzaine d'années. Si on remonte, c'est un immigrant qui vient de Colombie, qui est arrivé avec sa famille. En Colombie, c'était un champion de mathématiques qui représentait la Colombie au niveau international pour les Olympiades de mathématiques. Donc, génie de mathématiques, a ensuite étudié en maths pure. C'est un ambassadeur d'intelligence artificielle pour Microsoft, qui fait des conférences au niveau international, particulièrement dans les pays latinos. Et quand je l'ai rencontré l'année dernière, il m'a pitché une idée sur laquelle il travaillait, qui est ADMI. Donc ça, c'était en octobre dernier. Il dit, ben, moi, depuis des années, j'ai aidé ma famille quand j'étais là pour faire le dossier. J'utilisais Google Translate au début pour comprendre les dossiers. Puis au fur et à mesure, toute la famille, les amis, ils sont référés à moi. Donc, j'ai aidé à droite, à gauche là-dessus. Puis dernièrement, pour mon oncle, j'ai dû faire le dossier. Je me suis dit, mais je ne veux pas me retaper tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la loi qui est publique, qui est accessible à tout le monde, et je vais la mettre dans LLM, dans un modèle large de langage, pour interpréter tout ça, pour faciliter la préparation du dossier de mon oncle. Et c'est comme ça qu'il a monté un prototype. Je lui dis, bah, c'est génial. La première chose que je lui demandais, mais le marché, c'est un marché de niche. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde derrière tout ça? Et puis, en travaillant tous les deux ensemble, en le mentorant, on s'est aperçu que c'était un problème qui touchait beaucoup de monde au Canada, mais bien au-delà. Et chemin faisant, en 3 mois, on tenu à développer MVP, en français un produit minimum viable, et qu'il a lancé en janvier. Et déjà, plusieurs centaines d'utilisateurs, juste par le bouche à oreille, il en a parlé à quelques personnes, il dit « Ah, mais c'est génial !» À partir du mois de mars, il a mis en place la monétisation pour préparer automatiquement le dossier. Et là, des premiers clients sont arrivés. Il y a quelque chose à faire. C'est vraiment une belle histoire. Et ce qui fait que moi, en voyant ce projet formidable grandir, en voyant Anthony aussi, la manière dont on interagissait ensemble, on a des valeurs très similaires, et en voyant l'impact aussi auprès des personnes qu'on aidait, puisqu'on a interviewé une centaine d'immigrants, et les témoignages étaient poignants, parce que c'était vraiment des changements de vie. S'ils viennent ici, c'est pas seulement pour le plaisir, c'est parce que c'est difficile dans leur pays, ils ont pas le choix avec leur famille, mais en même temps, ils veulent amener quelque chose au Québec et au Canada. Le système d'immigration ici est très sélectif. On prend des personnes qualifiées, qui ont des niveaux d'études très élevés et dont on a besoin. Au Canada, on manque plus de 600 000 emplois. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui n'arrivent pas à répondre à leurs clients parce qu'ils n'ont pas les salariés.
On comprend bien dans ton explication que donc la première étape, ça a été d'aller chercher comme base de données la loi canadienne avec le programme des informations qui ont trait à l'immigration au Canada. Mais une fois que ça s'est fait, puis une fois que les gens ont immigré ou en sont en processus, là, que ça a été accepté, est-ce que l'application va les accompagner?
Tout à fait, parce que l'immigration, c'est un parcours en moyenne qui prend 5 à 8 ans. Je peux en parler d'expérience, même si en tant que Français, c'est assez quand même accessible. Et donc, pendant tout ce parcours, eh ben, il faut quasiment chaque année déposer un nouveau dossier, mettre à jour, puis la loi change. Donc, c'est pas facile de se tenir au courant. Il y a des petits conseils à avoir. Par exemple, si on doit déposer son dossier, eh ben, c'est mieux de vérifier que notre passeport est à jour. Parce que si on doit le renouveler, par exemple, le mois prochain, ben c'est mieux d'attendre de renouveler parce que sinon notre dossier revient à zéro. Donc c'est un processus qui est complet, complexe et qui coûte cher. Les frais pour avoir le visa, ça peut être des centaines de dollars voire 1 000 dollars, mais les plus gros frais, c'est les consultants ou les avocats en immigration qui aident les immigrants, et ça peut être très coûteux. Et pourquoi? C'est parce que eux ont le savoir, ils comprennent la loi. Et donc, ils l'interprètent après pour leurs clients. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on peut faciliter ça. C'est pour ça qu'on a entraîné ces 9 derniers mois un modèle d'intelligence artificielle qui comprend la loi, qui prend les derniers changements de la loi et qui l'interprète dans la langue de la personne. Donc, on a par exemple une personne en créole qui était dans notre assistant et qui posait des questions. Une personne en ukrainien. On a plus de 250 000 Ukrainiens là qui sont arrivés, qui vont devoir une demande de résidence. Donc, on a énormément de demandes. Et en même temps, on travaille avec des consulats qui nous disent, ben, nous, on reçoit trop de demandes et on n'a pas assez de personnes en interne pour répondre à ces discussions-là. On est en contact avec les consulats d'Ukraine, du Mexique, de Chine. Donc, il y a un vrai besoin et la technologie nous permet de faire ça.
Tu mentionnais l'écosystème qui existe déjà autour de l'immigration. Puis tu le disais, il y a des avocats, il y a des agents, il y a des gens qui se sont spécialisés. Et puis, à côté de ça, bien évidemment, il y a à la base des gens, des humains qui veulent immigrer au Canada. Parce que là, on parle de la question canadienne. Cette application-là, elle vient aider qui? Qui est votre premier client?
Ah, nous, on travaille... Notre mission, c'est d'aider les immigrants à avoir du succès ici, au Canada. Donc, on travaille pas pour des entreprises pour qu'elles fassent plus d'argent. J'en dirai pas plus là-dessus.
Mettons un large sourire,
ouais. Ouais, on veut vraiment aider les immigrants parce que c'est ce qui nous a touché le plus. Nous, on est passé par là. On sait que ça peut être compliqué, ça peut être très stressant pour soi, pour sa famille. Et je t'avoue que quand Anthony m'a pitché l'idée d'Anmi en octobre dernier, je venais de voir un documentaire. Je crois que c'était à Radio-Canada. Qui parlait de filières d'immigrants qui venaient de Philippines, où on leur demandait des 15, 20 000 dollars, et où on leur disait, en gros, si vous voulez baisser un peu votre dette, bah, faites venir d'autres personnes de votre village, etc. Puis j'étais là, on est un pays démocratique, et on est en train de monter des filières pour exploiter des gens dans des pays qui sont en difficulté. C'est pas possible. Pour répondre vraiment à ta question, on est en termes techniques B2C, on travaille pour les consommateurs, on travaille pour les immigrants à les aider. Et notre mission, c'est de les rendre autonomes avec une transparence totale sur ce qu'on offre. On travaille beaucoup sur la sécurité des données. Comme tu disais, Anthony, lui, est un expert en sécurité. Au niveau légal également, on se fait aider de cabinets spécialisés. On travaille avec l'ancien avocat de Element AI, qui est spécialisé au niveau juridique, au niveau AI. On travaille avec Shibel Mourad, qui est le directeur de Google DeepMind en Amérique du Nord, et c'est lui qui avait fondé le bureau de Google à Montréal il y a une quinzaine d'années, pour tout ce qui est sécurité du AI. On investit beaucoup dans la technologie pour assurer la qualité de ce qu'on offre, et puis pour simplifier l'expérience utilisateur.
Prochaine étape, parce que là, tu le dis, là, vous commencez à avoir des clients, des gens pour qui vous allez faire la différence dans les prochaines années, mais la prochaine étape pour votre entreprise, qu'est-ce que c'est?
La prochaine étape, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de passer du mode MVP au mode compagnie qui se développe pour avoir des milliers, des dizaines de milliers de clients. Là, on est en train de recruter. Déjà, on a une troisième personne qui s'est joint à l'équipe, qui est Jean-David Oleknovic, qui est notre directeur technique, et qui se trouve qu'il vient de la même ville que moi, Clermont-Ferrand en France, que j'ai connu il y a 20 ans, et qui a immigré au Québec il y a quelques années. Et donc, avec Anthony, Jean-David et moi, on est en train de recruter une dernière personne qui est une experte en immigration. Et avec cette équipe-là, l'objectif, c'est de lancer notre plateforme par abonnement en septembre, qui permettra d'accompagner justement et de conseiller en continu. Et on travaille avec des investisseurs pour nous aider à ce niveau-là. Mais on est très Lean, on s'est bootstrappé, donc on a financé nous-mêmes nos développements jusque-là. On n'est pas une startup qui va lever des millions de dollars et annoncer d'être unicorn. On s'est rendu compte que déjà on avait du monde qui nous attendait. Parce que quand on travaille avec les différentes communautés, c'est eux qui nous pressent de les aider. À tel point que, par exemple, la communauté ukrainienne nous a traduit notre site internet en ukrainien, la page. Parce qu'il dit, il faut qu'on les aide. Là. Il dit, nous, on n'avait pas trop le temps. Il dit, on va le faire. Donc, ça, c'est très motivant. C'est très motivant pour la suite, de se dire qu'il y a un marché qui attend une solution comme la nôtre. Et puis, on va y aller étape par étape.
En terminant, Laurent, l'étape ultime, est-ce que par la suite, c'est la déclinaison pour différents pays? Donc, d'avoir différentes versions pour les gens qui voudront émigrer vers d'autres pays, pour les Canadiens, les Québécois qui voudraient aller ailleurs?
Oui, c'est sûr que la mission première, c'est déjà au Canada
d'accueillir, ouais.
D'aider le maximum à d'immigrants, et de se dire demain, moi, je gère mon profil d'immigration sur Admi. Donc, ça, c'est l'objectif. Et de se dire, si on arrive à avoir un playbook, un mode de fonctionnement qui va très bien pour le Canada, il y a d'autres pays. Il y a l'Australie, par exemple, qui a un marché très similaire au Canada en termes de stratégie d'immigration qui pourrait être intéressante. Mais il y a 300 millions d'immigrants à travers la planète. Malheureusement, il va y en avoir encore plus dans les années à venir à cause des instabilités politiques, à cause des changements climatiques. Et en même temps, il y a une baisse de la natalité dans les pays riches qui fait que nos baby-boomers vont avoir besoin d'aide. Aujourd'hui, les aidants pour les personnes âgées au Canada, majoritairement, c'est des personnes qui viennent de l'étranger. On parlait des Philippines, qui sont très présents. Donc, il y a un besoin grandissant au Canada et ailleurs au Canada. Donc, si on peut être la solution pour aider tout ce beau monde, ça nous fera plaisir de les aider.
Ma vraie dernière question, à travers toute cette initiative-là, et là, on commence à en parler, la preuve, c'est qu'on en parle dans mon carnet, est-ce que vous avez eu des réactions? Est-ce que vous avez entamé des discussions du côté des gouvernements, autant à Québec que du côté fédéral, pour voir comment ça pourrait s'insérer dans la mécanique qui est déjà en place?
On n'a pas de relation, discussion directe avec les gouvernements. Encore une fois, on est là pour aider les immigrants, donc c'est surtout eux qu'on écoute. Par contre, on a rencontré, hier par exemple, j'ai interviewé une personne qui travaillait à Immigration Canada pour essayer de mieux comprendre les défis de leur part, parce qu'ils ont des défis. On parle aujourd'hui de 2 millions de dossiers, de 1 million de backlog. Un des premiers défis, par exemple, c'est la qualité des dossiers. C'est qu'un dossier soit bien ordonné, qu'il soit complet. Ça, typiquement, c'est nous ce qu'on permet.
Non, c'est votre force.
Et le premier filtre, nous, on peut pas préparer un dossier s'il n'y a pas tous les éléments. Donc, déjà, de faciliter le travail aux fonctionnaires qui sont derrière, qui travaillent fort, qui n'ont pas toujours les moyens, c'est notre mission. Si les gouvernements ou si des responsables voient un intérêt de travailler avec nous, ça sera avec plaisir. Déjà, nous, on regarde au niveau universitaire, par exemple, la faculté de droit à Montréal, ce qui serait possible de faire pour collaborer sur justement sur ces sujets-là, parce qu'il y a le DSS en immigration qui est à Montréal, qui est un des deux DSS au Canada. Donc, on va y aller par étapes. On va se focusser d'abord sur nos utilisateurs, les rendre heureux. Et puis après, on verra.
Mais je reviens sur cette rencontre avec le fonctionnaire fédéral. Ça a été quoi sa réaction quand il a appris l'existence de votre service? C'était un sourire?
Il nous a confirmé déjà, comme je viens de dire, que Annie répond à un premier problème qui est d'avoir des dossiers qui sont mal foutus. En bon français. Et donc c'est la. Puis Andy, il y a ceux qui le font eux-mêmes parce que ils veulent faire des économies, ils pensent qu'ils vont faire des économies. Mais il y a aussi des fois ceux qui sont accompagnés par des professionnels, mais qui font pas forcément bien leur travail. Donc, déjà c'est ça. Et ils pensent qu'il y a. Après c'est un avis parmi d'autres, mais oui, ils pensent qu'il y a besoin d'aide à ce niveau-là et que c'est un marché qui a besoin de solutions comme Admi, très orientées sur l'utilisateur et qui simplifie la vie.
Laurent Maisonneuve, cofondateur de Admi, merci d'avoir pris ton temps pour répondre à mes questions. Puis, merde pour la suite, puis on verra en septembre pour le lancement.
Merci à toi, Bruno. C'est toujours un plaisir de te voir. À
Salut.
Bientôt.
Le site du gouvernement du Québec, québec.ca, va bientôt franchir d'ici quelques jours le cap du milliard de pages consultées. Avec ça, c'est beaucoup d'apprentissage et c'est aussi beaucoup de connaissances sur les Québécois qui viennent utiliser le site. Parce que ces visites-là, ça génère une tonne de données statistiques qui sont compilées et analysées depuis maintenant 6 ans. En fait, aucun organisme public au Québec n'a plus de données à propos des habitudes et des attentes de presque tous les internautes québécois. Parce qu'un jour ou l'autre, depuis 6 ans, on est passé sur ce site-là. Pour discuter du site, de leur apprentissage et de ses données, on va les rejoindre à Québec, le directeur communication numérique gouvernementale au gouvernement du Québec. Bonjour Martin Boucher.
Bonjour.
Martin, d'abord, je veux dire que je pense qu'officiellement, je peux te décerner le prix de l'intervenant du Monde numérique québécois qui a été le plus présent jusqu'à maintenant dans mon carnet. Et je t'en remercie.
Ben, merci, Bruno. Merci d'accepter qu'on parle de nos projets, de nos réalisations au gouvernement. C'est important.
Ben, vous êtes quand même au centre de la vie démocratique des Québécois. Juste pour ça, je pense que c'est important de parler de votre actualité. Mais justement, parlant de l'actualité, si on en parle, c'est que là, c'est une question de jour au moment où on se parle. Le site québec.ca va franchir la barre du milliard de pages consultées. C'est quand même pas rien.
C'est pas rien. Puis pour le plaisir, j'ai essayé de démystifier ce que ça veut dire 1 milliard, parce que ça peut être flou un peu pour tout le monde. Puis j'ai fait le calcul. Quand on prend 1 million de secondes, ça donne environ 12 jours. Et si on prend 1 milliard de secondes, ça donne environ 31 ans. Donc, ça donne une idée de l'ampleur. Quand on dit 1 milliard, c'est beaucoup, beaucoup de pages. C'est sur 6 ans de développement. Puis le regard qu'on fait aujourd'hui de ça, c'est que c'est une masse énorme d'informations, de statistiques qui nous permettent de faire nos orientations, des fois de dénouer des discussions, donc de mobiliser toutes nos parties prenantes, faire des constats partagés, puis finalement, ça nous aide à orienter nos développements en fonction des besoins des citoyens.
Juste pour clarifier une chose, quand on parle de données qui sont accumulées comme ça à travers les années, c'est des données comportementales de masse. Là. On ne parle pas de données d'individus que vous suivez à la trace.
Non, c'est ça. C'est des données de cohorte, c'est des données statistiques. Parce que chaque visite, chaque fois qu'il y a une page qui est consultée par Québec.ca, ben nous, on compile des centaines d'informations sur cette visite-là. Donc, quel appareil les personnes utilisent, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, quelles recherches ils ont faites comme mots-clés. Mais c'est des cohortes, c'est des données anonymisées, des données anonymes. On a configuré tous nos outils pour respecter les lois en vigueur. Et de toute façon, nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir du profilage individuel parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les grands mouvements de cohorte, les comportements, mais c'est surtout les attentes. Les attentes et puis les habitudes des citoyens. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Bon, on les analyse, on essaie d'optimiser le parcours des citoyens entre un besoin qu'ils ont et un service numérique. Donc, ce n'est pas des données personnelles qu'on a, c'est des traces de navigation qui nous aident à améliorer l'expérience des citoyens.
Le site, il a 6 ans et on peut dire qu'il y a eu comme, puis on en avait déjà parlé, il y a eu comme l'avant et après pandémie, là, où à un moment donné, les gens, par la force des choses, ont découvert le site, ont vu toutes les ressources qui étaient là. Mais à travers ces 6 années-là, et peut-être depuis la pandémie jusqu'à aujourd'hui, comment a évolué l'utilisation du site par les Québécois puis les gens de l'extérieur du pays là, qui viennent l'utiliser?
Bien, on a comme une parenthèse pandémique où là, tout est un peu particulier, comme ampleur, mais aussi comme la nature des besoins des citoyens était particulière dans cette période-là. Mais si on fait abstraction de la pandémie, c'est difficile de faire abstraction de la pandémie, mais quand on regarde le cheminement de Québec.ca du début jusqu'à aujourd'hui, l'évolution a toujours été en très grande croissance, même en excluant la pandémie. Pourquoi? Parce que on a voulu intégrer les sites qui sont les plus populaires en premier. Donc, on a identifié des contenus et des sites, ce qu'on appelle des grappes de contenus ou des sites qui sont très populaires. Donc, c'est logiquement, on fait le plein de popularité et de visites parce que ces sites-là sont populaires. Et dans un ministère donné, un ministère peut avoir 15 sites web, 20 sites web selon le sujet. Donc, ce n'est pas toujours le site web du ministère comme tel, le site institutionnel, qu'on intègre. Parfois, c'est un site qui est plus populaire que le site
concerne un service.
Je donne l'exemple, l'aide financière aux études, c'est géré par l'éducation. On a commencé par le site web de l'aide financière aux études parce qu'il est très, très populaire. Donc, c'est ça qui explique la progression de la fréquentation, c'est qu'on priorise des contenus qui sont très populaires. Et là, on a un plan de match pour on l'a présenté l'année passée, notamment à mon carnet, où là, on a un plan de match pour compléter l'intégration de sites. On complétera pas l'intégration des 800 quelques sites, mais au moins la masse critique des pages populaires, des sites populaires, sera intégrée dans Québec.ca.
Martin, je me souviens d'une première discussion qu'on avait eue. Je pense que c'était même avant la première entrevue qu'on a présentée dans mon carnet. Puis, je me souviens que quand vous vous êtes embarqué dans ce projet-là, c'était quelque chose parce qu'à la fois, il fallait convaincre, mais il fallait aussi dire que c'est par là que ça allait passer. 6 ans plus tard, à quel moment les gens ont compris dans les ministères là, que c'était avantageux pour eux d'être présents sur Québec.ca? Il y a dû avoir un moment clé. Là.
Il y a plusieurs moments clés, Bruno. En fait, là, quand on a parlé au début de l'entrevue de la quantité de données que ce milliard de pages vues-là génère, ben avec l'analyse de ces données-là, puis aussi l'analyse des quelques 500 000 rétroactions directes des citoyens quand ils vont sur une page puis ils nous disent dans le bas de la page cette page-là était utile ou non et ils nous laissent des commentaires. Tu sais, quand on combine tout ça, ben on se rend compte qu'il n'y a aucun organisme public qui a autant de données que nous à propos des habitudes puis des attentes des citoyens, mais dans le fond, de presque tous les internautes québécois. Donc, dans le domaine public ou parapublic, il n'y a pas grand monde qui a autant de données que notre groupe. Donc, depuis le début, nous, ce qu'on voulait, c'était de baser nos décisions sur des données probantes. Ça, c'était inscrit dans notre stratégie, là, mais on l'a fait pour vrai. C'est-à-dire que quand on est devant un arbitrage, quand on est devant une bonne pratique ou un constat qui remet en question ce qu'on pensait être une bonne pratique, bien là, il faut convaincre des gens. Puis comment on le fait? Bien, plus on a de données, plus on a de démonstrations, plus on a d'analyses, plus on fait les mêmes constats autour de la table, puis plus la mobilisation de tout le monde, puis de tout le monde, là, je parle des... Ça va bien au-delà des communications, là. Il y a les gens de technologie de l'information, il y a parfois des gestionnaires de direction générale et même des autorités. Nos données nous permettent de convaincre et d'avoir une vision commune d'un phénomène, d'une vision objective aussi, puis nous permettent de faire de l'étalonnage, mais de l'étalonnage sur nos propres constats. C'est-à-dire que au lieu de se comparer à l'Ontario, gouvernement fédéral, gouvernement britannique, au lieu de comparer le résultat qu'on voit en ligne, nous, on va comparer sur notre historique, sur nos données québécoises, sur les réflexes que les internautes ont pour vrai, qu'on constate, qu'on observe. On a des données qui mesurent, par exemple, la popularité d'un contenu avant et après son intégration dans Québec.ca ou la satisfaction ou une amélioration de l'accessibilité web aussi. Donc, on a des données qui nous permettent de, entre guillemets, prouver la valeur de ce qu'on fait en plus des économies qu'on génère.
Depuis le début, on parle de la richesse des données qui sont colligées par ton équipe. Et je me demandais, est-ce que, de par la qualité et l'importance là, de ce trousseau de données-là, est-ce que ça sert aussi à d'autres ministères? J'ai en tête là, le ministère d'Éric Kerr, qui, à l'occasion, doit se pencher sur avoir un portrait d'ensemble des Québécois. Évidemment, il peut aller sur des études qui sont publiées sur le sujet, mais à l'heure actuelle, au Québec, vous êtes probablement les détenteurs de le meilleur portrait de famille qui existe de l'utilisation du numérique par les Québécois, de par quand ils viennent chez vous. Est-ce que ce type d'information-là peut servir à d'autres ministères? Puis je mentionnais celui d'Éric Kerr, notamment.
Bien, non seulement il peut, mais il sert déjà parce qu'on est impliqué dans un certain nombre de chantiers, de grands chantiers. On a toujours une fonction parce que peu importe le projet, il y a toujours une dimension de publication dans Québec.ca, de l'information gouvernementale. Donc, on peut toujours amener autour de la table les conclusions de nos études, nos analyses. Donc, ça sert déjà dans une panoplie de projets pour tous les ministères et je dirais même les organismes et même les organisations du secteur parapublic. On a des centres de services scolaires qui nous contactent. On a des municipalités du Québec aussi, des MRC. Donc, nous, on partage le plus possible nos constats et nos orientations parce que, dans le fond, tu l'as mentionné, ça dépasse le cadre du gouvernement. On peut quasiment dire qu'on a un portrait de l'ensemble des internautes québécois parce que les sujets sont variés dans Québec.ca, l'ampleur aussi de la consultation. Donc, on touche, à part les grands groupes commerciaux, on est probablement l'acteur public qui a le plus de compréhension des besoins des citoyens. Je pourrais peut-être, Bruno, ajouter un petit quelque chose pour quand on parlait tantôt de ce que nos analyses nous permettent de faire en termes d'optimisation. Puis je parlais de vieille mentalité ou vieille pratique qu'on veut remplacer par des nouvelles pratiques. Tu sais, notre défi, c'est pas juste d'adopter des nouvelles pratiques, mais il faut abandonner des vieilles. Ça, c'est très difficile. Et on a, depuis le début de notre aventure, une perception que on voit un site web un peu comme un buffet, où on dit, ben on va proposer plein de services un à côté de l'autre. Là, on va faire une espèce de portail où on va mettre... et là, les gens vont venir à la page d'accueil de ce portail-là, puis là, ils vont choisir parmi tout ce qu'on leur offre. Un peu comme quand on va dans un buffet. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que les internautes interagissent avec, notamment avec nous. Il faut abandonner l'approche buffet pour l'approche que j'appelle, moi, GPS. Ce que les gens ont comme comportement, c'est souvent ils ont besoin d'un seul service à la fois. Donc, c'est un peu comme quand tu prends ton GPS et tu as une destination, puis tu as un parcours vers cette destination-là. Et là, ben, tu as des obstacles, tu as du trafic, tu as un certain nombre de choses. Donc, c'est un peu ça notre travail, c'est d'identifier chacune des destinations et d'optimiser ce parcours-là, s'assurer que le parcours est fluide sans ce qu'on appelle de la friction. Mm-hmm. Donc, on est vraiment plus dans une approche GPS qu'une approche buffet. Et on voit Québec.ca comme étant le GPS des citoyens.
Martin, en terminant, je veux faire du pouce sur l'entrevue que tu avais accordée à mon collègue Jean-François Poulin lors du WAC à Québec. Est-ce que, puis on a parlé de votre utilisation là, de ChatGPT notamment, pour mm-hmm. faire de l'analyse, pour faire du benchmark, si on veut, dans l'utilisation de différents outils pour faire de la publicité, de la communication. Mais je me demandais, je regardais encore récemment votre site et je me disais, est-ce que c'est sur votre plan d'action un jour d'y insérer un agent conversationnel qui va travailler à partir de toutes les données qui existent par le gouvernement du Québec?
Ben, c'est pas impossible du tout. D'ailleurs, on avait intégré un agent conversationnel durant la pandémie, avant que ce soit à la mode, avant que ChatGPT soit... Et cet agent-là était basé sur l'intelligence artificielle aussi. Donc, on a énormément appris de cette expérience-là. Il n'est pas impossible. Je dirais que notre priorité aujourd'hui, c'est vraiment de travailler la qualité des contenus. Parce que là, tu parles d'intelligence artificielle, l'intrant le plus significatif à la qualité de n'importe quelle intelligence artificielle, c'est la qualité des données. C'est ça qu'on entend depuis toujours. Alors nous, Québec.ca, il faut le voir comme une immense base de données de contenu structurée mm-hmm. de près de 12 000 pages. Donc, c'est beaucoup d'informations qu'on veut voir organisées de la bonne façon, simplifier, bien rédiger, rédiger clairement. Pourquoi? Bien, parce que ça nous rend... il y a quelques années, on disait bien, c'est la meilleure recette pour être visible dans les engins de recherche. Aujourd'hui, on dit bien, en prenant soin de notre grande base de données de contenu, on se rend prêt pour l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il nous reste encore pas mal de travail à faire pour intégrer et convertir et revoir l'ensemble de nos contenus, les réorganiser, les intégrer dans Québec.ca. Donc, mais de tout le travail qu'on fait depuis 6 ans, sans le savoir particulièrement, ben on se rend prêt pour l'intelligence artificielle éventuellement. Et on est déjà une source.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que ChatGPT et les autres passent déjà chez vous.
Oui, puis on lisait cette semaine que presque 60 % des requêtes dans Google qui ne déclenchent pas de visite dans un site parce que Google fournit la réponse directement dans le rapport de recherche. Mais ce rapport-là, il vient de quelque part, il vient de nos contenus. Donc, plus on optimise nos contenus, plus on a de contrôle sur la façon dont l'intelligence artificielle va interpréter nos contenus. On va éliminer des biais potentiels de sens. Donc, tu sais, ce qu'on répète, là, c'est est-ce qu'on veut simplifier nos contenus ou on veut laisser l'intelligence artificielle le faire à notre place. C'est ça l'enjeu que je vois pour les années qui viennent.
Martin Boucher, directeur communication numérique gouvernementale au gouvernement du Québec, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je te dis à la prochaine.
Ben, merci beaucoup, Bruno. Au revoir.
Salut.
Ici Patrick Pierra, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
C'est l'été, bon nombre d'entre vous êtes peut-être même déjà en mode vacances ou à préparer vos vacances ou un voyage. Eh bien, pour vous, ma collègue Catherine Dupont-Gagnon, spécialiste de la cybersécurité, nous rappelle les bonnes habitudes de cybersécurité à adopter lors de déplacements.
C'est le temps des vacances pour nous, oui, mais les pirates, eux, et autres fraudeurs du web sont toujours à l'affût. Comment alors ne pas être une cible vulnérable alors qu'on voyage ou visite de nouveaux endroits sympas? Déjà, assurez-vous d'avoir une bonne hygiène numérique de passe. De bons mots de passe, robustes et surtout uniques, un gestionnaire de mots de passe et bien entendu, vos authentifications à facteurs multiples d'activer. Il vaut mieux également éviter d'annoncer trop publiquement que notre chez-soi sera vacant pour les 2 prochaines semaines ou encore notre itinéraire de voyage exact. Je le dis au passage, mais attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Vos cartes d'embarquement et votre passeport contiennent beaucoup d'informations personnelles. assurez-vous qu'il ne soit pas dans l'arrière-plan de votre selfie à l'aéroport pour plus de sécurité. Soyez vigilant également aux messages provenant de sites qui font les réservations en ligne. Le hack de Booking.com nous a démontré comment un fraudeur avait pu utiliser la messagerie officielle de l'application pour envoyer des liens frauduleux à des voyageurs. Soyez donc méfiants, même si ça semble officiel. Avant de partir, assurez-vous que vos appareils soient bien à jour et que votre antivirus est actif. Faites un backup de vos appareils et informez-vous des lois et règles du pays visité. N'apportez que ce dont vous avez réellement de besoin au niveau technologique et peut-être aussi que vous voudriez considérer supprimer quelques applications avant votre départ. En voyage, évitez les Wi-Fi publics non sécurisés. À l'hôtel, assurez-vous d'utiliser le bon réseau et que celui-ci soit sécur. Est-ce qu'il y a un petit icône de cadenas sur le Wi-Fi? En cas de doute, utilisez un VPN. Bien entendu, si vous devez utiliser un ordinateur public, chose que je ne recommande pas nécessairement, au moins, assurez-vous de vous connecter à aucun compte personnel pendant votre navigation. Si vous avez plutôt choisi de prendre la route panoramique avec une voiture de location, attention alors au jumelage Bluetooth. C'est surprenant parfois la quantité d'informations personnelles qui est téléversée lors de la connexion. Votre liste entière de contacts, par exemple. S'il est essentiel pour vous d'effectuer le pairage avec la voiture de location, assurez-vous au moins de supprimer votre téléphone du système au moment de remettre la voiture. Finalement, gardez vos appareils sur vous. Malheureusement, les coffres-forts dans les hôtels ne sont pas aussi sécuritaires qu'on pourrait le croire. Pensez aussi à désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre téléphone lorsque vous n'en avez pas de besoin. Ça limite les risques. Finalement, dans la légèreté des voyages et distrait par notre nouvelle routine de vacances, c'est possible qu'on soit un peu plus vulnérable à des fraudes, à du phishing ou à des attaques d'ingénierie sociale. Prenez donc le temps d'écouter votre instinct lorsqu'une situation ou un message semble suspect. Veillez à rester vigilant et alerte, particulièrement lorsque vous naviguez en ligne. Bref, vaut mieux ne pas consulter vos courriels entre deux Aperol Spritz. Bonnes vacances!
Thierry Weber nous présente le rapport d'une étude qui a été faite sur l'intelligence artificielle en Suisse romande.
Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ah, les vacances, cette période où on peut profiter du temps libre, du beau temps. Je vais arrêter là parce qu'effectivement, les conditions météo semblent être catastrophiques un peu partout sur la planète. C'est peut-être l'occasion de se replonger plus sérieusement et bien dans le monde du travail et plus spécialement celui de l'intelligence artificielle. Et oui, l'intelligence artificielle concerne aussi notre pays, j'ai nommé la Suisse, avec sa partie francophone que nous appelons ici la Suisse romande, celle qui compose environ un tiers de la population helvétique et qui, eh bien voilà, comme je vous le disais, est concernée par l'intelligence artificielle. J'ai eu la chance de mettre la main sur un rapport d'une étude réalisée par l'Institut Qualy Insight. C'est permis de poser la question, des questions autour de l'intelligence artificielle à presque un millier de personnes. Alors ça peut paraître peu outre-Atlantique ou dans d'autres pays. Ici, c'est très révélateur, c'est assez fort pour être une indication assez sérieuse. Je vous ai sorti cinq points pour justement faire l'état des lieux de l'intelligence artificielle sur l'impact qu'elle peut avoir au sein des PME, des entreprises suisses romandes. Le premier point, c'est l'adoption croissante et diversifiée. Alors aussi étonnamment que ça puisse paraître, l'IA est sur une trajectoire ascendante, sur notre région, sur la Suisse romande, des outils conversationnels au système avancé de recherche et développement. L'intelligence artificielle est de plus en plus intégrée dans les processus d'affaires, reflétant ainsi une adoption diverse et croissante dans tous les secteurs. Le second point qui ressort de cette étude, c'est l'impact sur le marché du travail. C'est clairement un des points qui est très souvent montré du doigt, qui est cité quand on parle de IA. Cet engouement pour l'IA n'est pas sans conséquence. On estime que 25% des métiers subiront des transformations significatives dans les 5 prochaines années. Alors, il y a des domaines comme le marketing, la recherche qui voient déjà une automatisation accrue, soulignant ainsi l'impact profond de l'IA sur le marché du travail. Troisième point, c'est le rôle crucial de la formation. Je vois à quel point il est important de revenir sur des fondamentaux comme la formation, parce que face à cette transformation, la formation émerge comme un pilier crucial, je dirais même incontournable. Surprenamment, seulement 27% des décideurs prévoient d'investir dans la formation du personnel sur l'IA. Moi, il me fait un peu peur ce chiffre parce que autant on prend au sérieux l'usage et l'utilité de l'IA, autant on met, à mon avis, pas assez d'énergie sur ce côté formation. Ce faible investissement pourrait ralentir l'exploitation efficace de cette technologie malgré son potentiel évident. Quatrième point, c'est les préoccupations éthiques et réglementaires. On l'a vu à l'image de iOS 18, qui est en bêta, le nouveau système d'exploitation lancé par Apple et qui devrait sortir cet automne et qui a décidé de repousser l'implémentation de l'intelligence artificielle, en tout cas pour le marché européen. On a pu voir qu'il y a des différences entre certains pays, comme la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. On a pu voir certaines fonctionnalités apparaître et pas être présentes dans d'autres pays comme chez nos voisins français. Est-ce un signal ? Enfin, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais la préoccupation éthique et les lois font partie aussi, effectivement, des préoccupations ici en Suisse romande. Avec l'adoption, justement, de l'IA, ces préoccupations viennent sur des inquiétudes qui portent sur la sécurité des données, la transparence des processus et le besoin de réglementation adaptée pour encadrer l'usage de l'IA, mettant en lumière les défis éthiques et réglementaires qui accompagnent son intégration. Pour la petite histoire, entre parenthèses, la loi sur la protection des données européenne n'existe pas telle quelle en Suisse, mais une adaptation et une grosse inspiration a permis de faire une loi spécifique à notre territoire. Le dernier point qui est cité dans cette étude, c'est les perspectives et attentes divergentes. On parle du futur. Les utilisateurs de l'IA se divisent en divers profils. Les pionniers qui embrassent pleinement cette technologie, aux sceptiques qui la perçoivent comme une menace. Moi, je fais partie de la première catégorie. Cette diversité d'opinions souligne la complexité de l'IA en tant qu'outil à double tranchant, capable d'innover capable d'innovation comme de disruption. En résumé, alors que l'intelligence artificielle continue de redéfinir le paysage professionnel ici en Suisse romande, il est essentiel de naviguer avec prudence entre saisir les opportunités d'innovation et aborder les défis éthiques. La route vers une intégration réussie de l'IA nécessitera formation, réglementation et surtout une vision claire de son rôle dans notre avenir professionnel. Restons à l'écoute de cette évolution fascinante. En même temps, je suis toujours très critique sur l'usage de l'informatique ici en Suisse. Et oui, en 2024, il y a encore des PME qui font des factures avec Excel. Mais bon, voilà. Allez, profitez de ce bel été s'il ne pleut pas ou si, effectivement, les éléments sont contre vous. Profitez, effectivement, de vous reposer, d'écouter des podcasts. Et comme à l'accoutumée, je vous dis à très bientôt si c'est pas avant.
Cette semaine, Stéphane Ricoul aborde une question très importante entourant l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs une question qu'on aborde malheureusement trop peu souvent, le vieillissement de la donnée dans le domaine de l'intelligence artificielle. On l'écoute.
De plus en plus de publications scientifiques font ressortir le risque de baisse de qualité des corpus d'entraînement sur lesquels l'intelligence artificielle se base. Selon ces publications, les contenus de qualité, produits par des humains, de qualité, oserais-je dire également, vont se raréfier. Ce phénomène est décrit comme une crise des données dans l'économie de l'intelligence artificielle, où l'industrie de l'IA fait face à une pénurie de données et à une rareté de données. Une mise en garde, donc, contre les défis liés à l'intégration et à la stratégie des données pour l'intelligence artificielle. Il me paraissait intéressant de regarder au travers de ces concepts, en commençant par celui de la dégradation temporelle de la qualité, aussi qualifiée de vieillissement de l'IA. Ce concept fait référence à la dégradation de la performance des modèles d'IA au fil du temps, due à plusieurs facteurs. Si je me réfère à un article scientifique publié dans Nature.com, ce vieillissement consiste en une dégradation complexe et multifacette de la qualité du modèle d'IA à mesure que le temps passe depuis le dernier cycle de formation du modèle. Les auteurs de cet article ont utilisé des ensembles de données provenant de 4 domaines différents, santé, transport, finance et météo, et 4 modèles d'apprentissage automatique standard pour identifier, décrire et confirmer les principaux modèles de dégradation temporelle. Ils ont constaté que la dégradation temporelle varie considérablement entre les industries, les modèles d'IA dans le domaine de la santé montrant, par exemple, une dégradation plus rapide que ceux dans le domaine des transports. Plusieurs causes potentielles de cette dégradation temporelle sont identifiées dans l'article, comme les changements dans les données sous-jacentes, l'évolution des tendances et des comportements, et les modifications de l'environnement opérationnel. Plusieurs approches y sont aussi suggérées pour détecter le vieillissement et réduire son impact, incluant le réapprentissage périodique, l'adaptation en ligne et l'apprentissage continu. Sachant que les modèles d'IA sont de plus en plus présents dans de nombreuses applications de la vie de tous les jours, la qualité durable des modèles d'IA devient donc de plus en plus importante. Deuxième concept que les scientifiques mettent de l'avant, celui de la pénurie de données. De nombreux articles, études ou réflexions existent sur ce concept, aussi appelé sécheresse des données dans l'économie de l'IA, où la demande de vastes ensembles de données pour alimenter les avancées de l'IA a dépassé les données publiques de qualité disponibles en ligne, entravant le développement de modèles d'apprentissage efficaces et conduisant à une réduction des performances de l'IA, puisqu'elle consomme les données linguistiques plus rapidement que nous les produisons. Un stock qui pourrait s'épuiser dès 2026 selon la revue New Scientist. Vous comprenez dès lors pourquoi un OpenAI, pour ne citer que celui-ci, est en course pour sécuriser, quitte à payer des sources de données de haute qualité pour entraîner leur large modèle de langage. Un article de PBS News compare cette situation à une ruée vers l'or pour les données d'entraînement. Il faut croire que l'humain aime rester attaché à l'idée que l'histoire se répète continuellement. Mais dans le cas présent, l'article met de l'avant qu'à long terme, il pourrait ne pas y avoir assez de nouveaux blogs, articles de presse, de commentaires dans les médias sociaux pour soutenir la trajectoire actuelle du développement de l'intelligence artificielle. Vieillissement et pénurie de données nous amènent tout droit vers le dernier concept qui mène la vie dure à l'intelligence artificielle, celui de la qualité des données, un concept que tout le monde est censé connaître rendu en 2024. Et dans qualité des données sont inclus les notions de confidentialité, de sécurité, de biais, d'équité, d'interprétabilité, d'explicabilité, d'éthique, etc., etc. Plus la qualité des données est là, plus les prédictions ou les résultats produits sont fiables. Tout le monde le sait à présent. Si les données d'entraînement sont biaisées, incomplètes ou contiennent des erreurs, le modèle d'IA produira probablement des résultats peu fiables. Maintenant, les ensembles de données sur lesquels s'entraîne l'IA pourraient aussi être vulnérables à la falsification, aux violations et autres attaques. D'où l'importance pour nos entreprises de protéger l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données tout au long du cycle de vie de l'IA, de la conception à la formation et au déploiement. Je vous invite d'ailleurs à lire un bon article de IBM sur cet aspect qui s'intitule « What is AI Security ?» Ensuite de quoi ? L'interprétabilité et l'explicabilité, c'est quoi ces principes-là? Ça mange quoi en hiver? Eh bien, l'interprétabilité et l'explicabilité, c'est le degré auquel un observateur peut comprendre la cause d'une décision. C'est le taux de réussite que les humains peuvent prédire pour le résultat d'une sortie d'IA, tandis que l'explicabilité va plus loin et examine comment l'IA est arrivée au résultat. Je vais me référer encore une fois à un article de IBM, intitulé cette fois-ci « What is Explainable AI ?», qui nous explique que l'intelligence artificielle explicable est un ensemble de processus et de méthodes qui permettent aux utilisateurs humains de comprendre et de faire confiance aux résultats et aux sorties créées par les algorithmes d'apprentissage automatique et est utilisé pour décrire un modèle d'IA, son impact attendu et ses éventuels biais, crucial pour une organisation pour construire la confiance et la confiance lors de la mise en production des modèles d'IA, en les aidant également à adopter une approche responsable du développement de l'IA. Les modèles d'apprentissage automatique sont souvent considérés comme des boîtes noires, qui sont souvent impossibles à interpréter. Même les ingénieurs ou les scientifiques de données qui créent l'algorithme peuvent ne pas comprendre ou expliquer ce qui se passe exactement à l'intérieur ou comment l'algorithme d'IA est arrivé à un résultat spécifique. On en a parlé à de nombreuses reprises et pourtant, il y a de nombreux avantages à comprendre comment un système activé par l'IA a conduit à une sortie spécifique, comme aider les développeurs à s'assurer que le système fonctionne comme prévu, répondre aux normes réglementaires ou permettre à ceux qui sont affectés par une décision de contester ou changer ce résultat. Ce dernier concept est donc l'une des exigences clés pour la mise en œuvre d'une IA responsable, une méthodologie pour la mise en œuvre à grande échelle des méthodes d'IA dans les organisations. L'intégration de l'intelligence artificielle dans nos entreprises est aujourd'hui essentielle pour améliorer l'efficacité, la prise de décision et l'expérience client, pour ne citer que ces exemples. Cependant, nos entreprises doivent aussi surmonter tous les défis liés à l'IA précédemment cités. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré ces défis, avec une stratégie bien pensée et une compréhension approfondie de l'IA et des données, votre organisation peut se transformer et permettre d'exploiter pleinement le potentiel de cette technologie. Il suffit d'être bien accompagné sur ce chemin vers la croissance.
C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno.
Jean-François, dans toute cette lumière que tu nous amènes comme ça chaque semaine, là, tu as décidé de nous faire un gros plaisir et de nous présenter une collègue à toi et vous allez parler, c'est quand même pas banal comme appellation, du UX total.
Bien, ça vient d'un phénomène ou d'un article de Gartner, dont Christelle Black, moi aussi je me suis fait un plaisir, là, je ne vous ai pas fait juste un plaisir à vous, je m'en suis fait un à moi parce que Christelle
égoïste,
Black...
Égoïste, ça va?
Je suis comme ça. Mais j'aime beaucoup Christelle parce que ça fait vraiment plusieurs années qu'on se connaît, puis je suis ses conférences, puis l'évolution de sa carrière, tout ça, j'aime beaucoup, elle m'amène toujours hors de ma zone de confort, un petit peu en avant. Et là, elle voulait me parler du UX total. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Elle m'a envoyé un article, l'article même elle avait lu là-dessus. Il y en a plusieurs qui sont sortis dans les dernières années et ça fait beaucoup de sens. Daniel Lafrenière nous en a parlé aussi ici en entrevue.
Sous d'autres appellations, c'est ça?
C'est ça, sous d'autres appellations. En fait, c'est le UX de l'expérience employée et le UX de l'utilisateur, du patient, du citoyen. Donc, on dit de plus en plus qu'il faut qu'on mette les deux ensemble pour que ça fasse du sens, pour qu'il y ait quelque chose qui se développe. Si l'employé n'est pas au courant de ce que le client vit, ben comment on fait pour créer une relation qui fait du sens aussi pour tout le monde? Là?
Jean-François, suis-je dans les patates? À un moment donné, mais il y a longtemps, j'avais entendu l'expression du UX 360. Donc, pour s'assurer que toutes les étapes et tous les regards étaient inclus là-dedans. C'est environ ça, là. Hein?
Oui, je suis en plein ça. Puis, tu sais, pour ceux qui connaissent Disney, c'est beaucoup ça aussi. Tu sais, quand on parle d'expérience totale, tu as ton petit bracelet, te donne des privilèges, te met en contact direct avec le fait que tu peux aller à tel manège puis il n'y aura pas d'attente. De l'autre côté, l'employé sait qui il a devant lui. Il est capable de voir exactement tout ton profil en temps réel. Puis, on peut rêver d'avoir ça à quelque part ailleurs dans nos interactions, par exemple, avec nos banques, avec nos compagnies de communication, où tu sens que la personne est en train de checker 3-4 logiciels pour vérifier si tu as droit à un crédit, puis c'est long, c'est compliqué. Alors que théoriquement, on s'attend tout le temps face à un fournisseur d'une sorte ou d'une autre qui soit au courant de tout ce qu'on est sans qu'on ait à réexpliquer tout. Puis c'est toujours
ce qu'on reprochait d'ailleurs au gouvernement dans l'expérience client, parce qu'un ministère ne parlait pas à l'autre et puis à un moment donné, ben, il y avait des irritants.
Ça, c'est un cas particulier. Je pense qu'il y a bien des gens qui se plaignent pas que le ministère du Revenu parle pas à un autre ministère, etc., etc. Je pense que là, il y a une petite gêne qu'il y a bien des citoyens.
Ah, là, le UX total.
C'est pas moi qui le dis, mais je pense qu'en général, les citoyens sont pas mécontents que tous les ministères se parlent pas directement, effectivement.
Bon, Jean-François, donc, on va aller écouter cette entrevue.
Merci beaucoup, Bruno. Allons-y.
Salut, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bye.
Salut, Jean-François.
C'est quoi l'expérience totale?
C'est pas un nouveau concept. C'est un concept qui existe depuis déjà 3-4 ans. De ce que j'en connais, moi, le concept a été énoncé par le groupe Gartner, une espèce de think tank là, de réflexion sur la technologie. qui s'est rendu compte qu'il y avait effectivement dans le domaine de l'expérience client quelque chose qui devait maturer pour faire évoluer l'expérience client de manière à ce que elle puisse être soutenue et avoir une croissance sur le long terme là, qui soit viable. Donc, eux, ils se sont posé des questions, puis ils ont fait un certain nombre de constats et ils sont arrivés avec la création de l'expérience totale. C'est un cadre de travail qui est censé aider à livrer des expériences numériques complètes et cohérentes. Le succès de l'expérience numérique, ça nécessite une approche holistique, hein, ça tout le monde en parle. Quand on parle d'expérience numérique, on dit oui, il faut être centré sur le client ou centré sur l'utilisateur. Oui, il faut analyser l'ensemble des canaux et des médias, etc., d'interaction. Puis là, ben justement, le succès de l'expérience totale, ça nécessite de prendre en considération pas seulement les aspects relatif au processus que le client doit avoir lorsqu'il interagit avec une entreprise, pas seulement relatif au processus que l'employé a lorsqu'il interagit avec son client ou avec ses opérations à l'interne, mais aussi avec les deux autres facettes qu'on a tendance à négliger, qui sont finalement les moyens de livrer ces expériences-là, les moyens de l'exécuter, c'est-à-dire l'expérience utilisateur et ce qu'on appelle maintenant le multi-expérience. Puis ça, encore une fois, c'est un mot qui a été coiné par Gartner. Puis le multi-expérience, c'est quoi? C'est l'interaction entre une variété de points de contact numériques, services web, applications mobiles, chatbots, wearables.
Et non numériques, j'imagine aussi.
Non, justement, juste les numériques.
Okay.
Dans leur concept, c'est juste les numériques.
Okay.
Ils utilisent une combinaison de modalités d'interaction. Hein. Nous, en IHM, en interaction humain-machine, on sait ce que c'est, là, mais pas tout le monde est super familier avec ça. Mais il y a des modalités d'interaction, c'est quoi? C'est le toucher, la vision, l'ouïe, la voix, le geste. Donc, ça fait en sorte de composer un parcours utilisateur numérique qui est homogène puis qui est cohérent si c'est bien fait puis si c'est bien exploité. Fait que ces deux concepts-là, l'expérience utilisateur puis le multi-expérience, qui sont finalement l'ensemble des moyens techniques, on va dire, qui nous permettent de livrer l'expérience, si tu les considères pas ou pas assez tôt ou pas bien dans ton équation d'aller coller l'expérience client puis l'expérience employé ensemble, tu n'auras pas une expérience totale. Okay, donc, c'est vraiment une patte, un mouton à quatre pattes, pas cinq, juste quatre. Fait que c'est ça l'idée. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là, au Gartner quand ils énoncent, là, quand ils parlent d'expérience totale? Ils disent que ces quatre disciplines-là doivent fusionner de manière cohérente. La stratégie d'expérience client doit générer des souvenirs positifs et mémorables aux clients. Mm-hmm. Qui exploite un produit ou un service en incorporant les bonnes pratiques d'expérience employée, de UX puis de multi-expérience. Les leaders d'expérience client doivent investir massivement dans l'expérience employée. Ils ne peuvent pas être en dichotomie. On ne peut plus avoir des silos entre l'expérience client et l'expérience employée. Et il faut qu'ils dotent les travailleurs, les employés, surtout les employés de première ligne, là, évidemment, ceux qui vont interagir avec les clients, là, qui les dotent d'excellentes capacités de multi-expérience pour qu'ils puissent offrir une expérience mémorable, qu'on disait tantôt, aux clients. Puis, évidemment, que si tu les dotes de multi-expérience de qualité, ben à l'intérieur de ça, ton expérience utilisateur doit être de qualité aussi. Fait que tout est dans tout. Puis après ça, c'est sûr que ça vient avec d'autres corollaires, genre les stratégies UX doivent être de qualité pour venir diminuer la friction numérique. On a ce problème-là en ce moment de friction numérique où est-ce que les gens... C'est sûr qu'on est en train de numériser tout, on est en train de transformer tout de manière numérique.
Ouais.
Les gens, si c'est pas bien fait, ont pas nécessairement... un accueil positif de ce qui est numérisé parce que soit parce qu'ils n'ont pas les équipements qu'il faut. Justement, au niveau du multi-expérience, on leur donne pas les moyens qu'il faut pour aller chercher une bonne expérience, ou ils n'ont pas la connaissance qu'il faut pour appréhender les nouvelles solutions de manière numérique, tout ça. Fait que, au niveau UX, on a beaucoup, beaucoup à faire aussi de se préoccuper de où est-ce qu'ils sont nos gens, de comment est-ce qu'on va aller les chercher de la bonne façon, avec les bons canaux, sachant ce qu'on sait sur nos utilisateurs. Donc, la recherche utilisateur est très, très importante.
Parce que souvent aussi, dans les grandes organisations, les différents canaux originent de différents silos à l'intérieur de l'organisation. Oui. On voit souvent des dichotomies complètes entre une partie de l'expérience, une autre partie, et on oublie en tant qu'administrateur dans ces grandes organisations-là que parfois, l'utilisateur, lui, il passe quelques secondes entre chacune de ces expériences-là, même s'ils ont été faits sur plusieurs mois, voire des années dans chacun des silos, mais on oublie cette transversalité-là.
Tu sais, tu vas avoir, je sais pas, là, on dit n'importe quoi, mais mettons l'équipe le Customer Experience va s'occuper du chatbot.
Ouais.
Mais le soutien technique, lui, il n'en a jamais, tu sais, il est pas responsable du chatbot, il est pas, mais le client téléphone parce qu'il a eu une mauvaise expérience avec le chatbot. Mais non, ça marche pas. Donc, ce genre de choses-là, c'est ce que l'expérience totale tend à, tu sais, avoir. À vouloir améliorer ou en tout cas à vouloir penser autrement. Puis le meilleur exemple, là, si on doit citer un exemple de compagnie qui a réussi là, vraiment à planter l'expérience totale, je pense que le meilleur exemple qui parle à tout le monde, c'est l'exemple de Disney. Mmh. Alors, si tu prends Disney, et particulièrement le cas de Disney World, Disney World, ben, au niveau expérience client, tu sais, je veux dire, c'est quand même reconnu là, sur la planète entière. Là. Tu sais, l'ensemble des parcs à thème, l'application mobile, le site web, le service clientèle qui est tout le temps très personnalisé, même la politique de prix qui était vraiment pensée en fonction des segments, c'est très, très, très précis. Ouais. L'hôtellerie qui vient avec, toutes sortes de concepts incroyable que les gens... Donc, tu sais, quand on parle de moments mémorables, on est là.
On a enlevé tous les points de friction, en fait.
Bien, on essaie. Bien, justement, fait que là, comment on enlève les points de friction? Alors, tu as du point de vue de l'expérience employée, concrètement, tout l'écosystème de solutions numériques qui est mis à disposition des employés pour soutenir la clientèle est extrêmement riche. C'est-à-dire que chaque employé, qu'il soit au niveau du parc à thème ou qu'il soit dans les bureaux pour faire de la réponse au téléphone, chose comme ça, les gens sont équipés avec des technologies de pointe super bien conçues. Ils sont constamment formés sur les nouveautés qui s'en viennent. On s'assure qu'il n'y a personne qui est « left behind », c'est comme on dit, là. Mm-hmm. Tout le monde est sur la coche à ce niveau-là. Tu pars dans le Disney World avec ta petite famille, là. T'as toujours une personne au parc qui est là, qui est branchée sur toi. Il te reconnaît tout de suite parce que t'as ton petit bracelet. Il sait où est-ce que t'es censé t'en aller et il sait exactement comment te dire d'y aller. Donc, ça, c'est vraiment hyper bien pensé. Au niveau de l'expérience utilisateur, Disney, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, ils ont créé l'application mobile My Disney Experience. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là? C'est cohérent avec le site web, c'est cohérent avec au niveau tablette aussi. Tout est, je veux dire, facile d'apprentissage, facile d'utilisation.
Cohérent avec ton bracelet aussi, j'imagine.
Cohérent avec les bracelets, cohérent avec les écrans tactiles sur place aussi, tu sais. Fait que tout se parle.
J'imagine que quand tu vas dans un endroit physique, tu es reconnu tout de suite parce que tu as le bracelet, comme tu disais tout à l'heure.
Là. Exact. Fait que là, le bracelet, le fameux bracelet, quand on parle multi-expérience, c'est là leur point de génie. C'est la création du bracelet magique là, qui optimise les accès au manège, qui réduit l'attente. Là, tout le monde est tellement content de ne pas avoir à faire l'attente. Tu te sens tellement privilégié quand tu es capable de... c'est d'aller dans un manège puis d'entrer immédiatement. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'une entreprise qui a pris ça là, de manière sérieuse puis qui a dit « OK, on va faire ça ». Alors, est-ce que c'est applicable dans tous les cas de figure puis dans tous les contextes de société d'entreprise? Moi, je suis persuadée que oui. Je suis persuadée que toutes les entreprises qui ont des clients ont des employés et essayent de numériser leur processus. Et en faisant cet exercice de numérisation des processus, nécessairement, si on le prend avec ces quatre facettes-là, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus complet, beaucoup plus cohérent. Et surtout, il faut qu'on soit prêt à briser les silos. Parce que là, ça exige effectivement que tous les groupes Customer Experience, Employee Experience, User Experience et toutes les technologies, les groupes, les TI qu'on appelle, soient autour de la table puis contribuent ensemble à l'élaboration d'une feuille de
route. Et si on transpose ça dans notre expérience totale, donc c'est cette proactivité-là, elle s'exprimerait comment dans une grande entreprise de chaussures ou une grande entreprise de pièces d'auto? Est-ce qu'on est capable de dire, d'abord, un des points que je retiens que tu m'as dit, c'est la transversalité. Il faut, ce que très peu d'entreprises, voire quasiment aucune au Québec fait, c'est d'être capable d'avoir une action transversale. Ce que les départements CX ne font pas encore non plus. Ça, c'est un grand défi. Puis l'autre défi, ce serait quoi au niveau de la proactivité aussi? D'être capable de projeter ou de permettre aux interfaces numériques et aux services d'appel d'être proactifs dans les informations qu'on donne à nos clients?
Oui, ben c'est ça. En fait, l'idée, c'est moi, ce qui serait un rêve pour moi en tant que cliente de service, souvent,
c'est
que je frappe un mur, je dois appeler le service à la clientèle. Je frappe un mur dans mon expérience numérique ou quelque chose qui casse. J'appelle le service, le soutien, et là, la personne ne sait absolument pas quel a été mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait avant, comment je me suis rendue, où je me suis rendue, de sorte que c'est très difficile pour elle de m'aider et je suis obligée de tout redonner mon pedigree, là, qui suis-je, c'est mon nom, c'est pour ça quel client, etc. Puis, donc, l'idéal, ce serait d'avoir ça, au moins une possibilité pour... Et je me mets à la place de la personne au soutien à la clientèle qui se sent complètement démunie, qui se sent pas utile. Il ne peut pas m'aider. Donc là, l'idée, ce serait qu'il ait cette possibilité d'avoir un accès facilité à l'expérience que j'ai eue moi pour qu'il puisse, et avec vraiment un diagnostic rapide, là, pour qu'il puisse me débloquer et me faire procéder, parce que l'idée, c'est de faire ça, là, me faire procéder à la transaction.
Bien, je pense que c'est un petit peu là où s'en vont en ce moment l'évolution des chats GPT et autres intelligences de ce monde. C'est d'être capable de cruncher les 10 ou 15 000 pages de ton site web et de redonner, ils ne seront pas encore fiables, on s'entend, mais c'est peut-être ça la prochaine étape, c'est que le contenu complet de l'offre de l'entreprise, de l'organisation, va être redonné sous la forme de la meilleure recommandation en conséquence des besoins de l'utilisateur, quelque part.
Oui, effectivement, ça pourrait être une piste et on pourrait vraiment voir en quoi est-ce que ce modèle-là serait meilleur qu'un modèle où tu continues d'avoir un agent humain qui, lui, a une bonne connaissance, qui a une bonne connaissance du domaine, qui a une bonne connaissance des irritants sur la voie pour ses utilisateurs et qui est capable aussi d'inférer, finalement, là, sur la base de sa connaissance des solutions.
Ben écoute, Christelle, merci beaucoup pour cette conversation. C'était vraiment super intéressant. J'en apprends toujours beaucoup avec toi.
On va le mettre ensemble, on va le mettre en place ensemble quelque part.
Yes. Merci beaucoup.
Salut.
Ah ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités et puis merci à mes collègues, hein, Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, bonne semaine, portez-vous bien.